Je vais m'appuyer sur plusieurs des travaux que j'ai menés depuis quelques années, notamment avec Michel Grossetti, qui est sociologue CNRS à Toulouse. Les sources, pour ceux qui voudraient des éléments, c'est un premier article qu'on a publié dans la revue de l'OFCE en 2015, où on a, bon, c'était une analyse avec comme point d'entrée une critique notamment de la note Terra Nova d'Avzipech et critique aussi de certains travaux de l'économie géographique pour remettre en débat ce qui nous semblait être un discours dominant autour de la métropolisation. Deuxième source, c'est suite à une étude que j'ai menée donc avec un financement de la Caisse des dépôts et consignations pendant 2 ans sur 5 territoires en France, donc le Sillon Lorrain, Belfort-Montbéliard, Pau, Toulon et le plateau de Mille Vaches, qui a donné lieu à la production d'un ouvrage aux éditions Atlantique qui s'intitule Dynamique territoriale, éloge de la diversité. Donc effectivement, c'est peut-être un peu le fil conducteur de mes travaux depuis assez longtemps, même depuis ma thèse, sur cette question de la diversité et la richesse de la diversité pour produire des richesses et de l'emploi sur les territoires. Là, dans cet ouvrage-là, c'est pas simplement déconstruire certains discours sur la métropolisation, quels sont les modèles de développement économique, c'est aussi dire, bon, ben, si on laisse de côté cette obsession du modèle, comment on fait pour analyser les territoires? Quelle méthode d'analyse pour identifier les problèmes à traiter, etc. Et puis, dernière source, et je vais peut-être commencer par ça, c'est un texte qu'on a écrit avec Michel Grossetti, qu'on a diffusé là sur les réseaux au printemps dernier, qui est une tentative de monter en généralité. C'est-à-dire au départ, on a pas mal écrit sur critique du discours métropolisation, mais finalement, on s'est dit, c'est une problématique un peu plus générale. Donc, alors, volontairement, c'était un texte qui s'adressait pas nécessairement aux chercheurs, mais plutôt hors sphère académique. Donc, avec un titre un peu provoque, on va dire, hein, donc c'est sur la mythologie CAM, hein, comment s'en désintoxiquer. Voilà, donc on a filé la métaphore en disant finalement, sur tous les territoires, on est un peu sous prise de CAM, et il y a des effets pervers, et ça conduit sans doute à mal penser les enjeux de développement territorial, et à mettre en œuvre des politiques publiques qui ne nous semblent pas toujours adaptées. Donc je vais commencer par ça et puis après et puis c'est un enjeu fort, hein, je vais essayer de développer autour de quelle alternative à la CAM? Est-ce qu'on n'a pas des drogues plus douces peut-être ou plus efficaces à prendre? Dire aussi une autre peut-être parce que peut-être je vais illustrer aussi avec d'autres terrains sur lesquels je travaille actuellement pour le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. C'est peut-être aussi une première façon de dire que la façon dont on regarde les choses est super structurante sur ce qu'on peut. Enfin, c'est moi de plus en plus, au fur et à mesure de mes travaux de recherche, ce que je me dis, c'est la vraie interrogation, c'est sur les représentations qu'on a dans les têtes et qui biaisent considérablement après un peu tout, quoi. Et typiquement pour cette étude sur la Nouvelle-Aquitaine, la commande de la région Nouvelle-Aquitaine, ça a été de dire, on a repéré des territoires fragiles. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est d'étudier, de faire un diagnostic approfondi de ces territoires fragiles pour qu'on. Alors, l'intention est très louable, hein, pour que le Conseil régional donne plus d'argent à ces territoires fragiles et puis qu'ils puissent rattraper leur retard. Et donc, bon, ça, c'était un coup parti quand on m'a contacté. Et les premiers éléments de débat, ça a été de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire un territoire fragile? Est-ce qu'on peut dire d'un territoire qu'il est fragile? Alors, un premier effet très rapide, hein, quand le Conseil régional a annoncé ça aux élus des territoires, c'est que ça a un effet ultra stigmatisant. Châtellerault, par exemple, a appris qu'il était un territoire fragile. Donc, ça n'a pas du tout plu. Et puis, finalement, en discutant un petit peu, ce que j'ai expliqué, c'est, enfin, moi aussi, ça me pose un vrai problème de définir une catégorie territoire fragile. Et le contre-argument que j'ai avancé, c'est de dire, mais en fait, c'est pas un problème de territoire fragile, c'est un problème de fragilité territoriale. Et tous les territoires ont des fragilités. Et un des territoires qui a de fortes fragilités aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, c'est Bordeaux. Avec un afflux massif de population, avec des problèmes de gentrification, avec des problèmes de montée du foncier, etc., etc., de prix du foncier, etc. Donc déjà, si on rentre par la problématique, et ça j'en reparlerai parce qu'il me semble que c'est aussi un biais qu'on a, mais y compris moi en tant que chercheur, hein. Si on rentre par des catégories de territoires, quelles que soient ces catégories, en fait on rate plein de choses. Et on a tendance à simplifier à l'extrême la diversité justement des territoires et la diversité des potentialités de développement économique. Donc voilà, c'est aussi une autre petite source, cette étude-là, peut-être aussi, alors peut-être pas là dans la table ronde, peut-être ultérieurement aussi dans les discussions, parce que ce que je suis en train d'essayer de faire avec le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi une autre façon d'appréhender justement les potentialités de développement, puis de mettre en œuvre autrement un peu des politiques publiques de développement économique local, et il me semble quand même qu'il y a des choses assez intéressantes. Alors je vais commencer par la déconstruction donc de certains des discours. Donc on a appelé ça voilà la mythologie CAM pour dire que c'est pas qu'un problème des chercheurs qui travaillent sur les territoires, c'est plus général. Donc CAM c'est l'acronyme de C pour compétitivité, A pour attractivité, M pour métropolisation et E pour excellence. Et en gros, c'est un discours, quand on l'entend, il a l'air super séduisant, ça a l'air de marcher vachement bien. Et ça peut être résumé en quelques lignes. En gros, aujourd'hui, compte tenu de l'approfondissement du processus de mondialisation, tous les territoires sont en concurrence les uns avec les autres. C'est la compétitivité territoriale exacerbée. Et donc, si on veut, dans un pays comme la France, créer des richesses et de l'emploi, il faut absolument avoir des territoires compétitifs. Mais tous les territoires ne peuvent pas être compétitifs. Et donc, il faut arrêter de faire de l'aménagement du territoire, essayer d'irriguer un peu tout le monde. Il faut mettre le paquet sur les territoires les plus performants. Et puis, pour les autres territoires, alors il y a différentes formes de bouclage, hein, dans le texte, enfin, dans notre texte, on le développe, hein. On peut avoir la stratégie Askenazi-Martin, je dirais, qui consiste à dire les autres territoires, mais c'est pas grave, parce que si on met le paquet sur quelques territoires très performants, on fera plus de croissance économique. Donc, l'État va prélever plus d'impôts. Et grâce à la fiscalité, on va pouvoir dédommager les perdants, en gros. Hein, on va pouvoir redonner aux pauvres et puis favoriser leur mobilité des territoires perdants, on va dire, de toute façon, qui n'ont pas trop de chance, hein, vers les métropoles innovantes, créatives, etc. Il y a d'autres bouclages, système productivo-résidentiel. Hein, les autres territoires, ils feront du résidentiel. Et puis, donc les territoires performants, eux, vont aller sur l'économie mondialisée et productive. Donc, on a cette injonction à la compétitivité des territoires. Et quels sont les territoires qui peuvent être les plus compétitifs aujourd'hui? Ben, c'est les métropoles. C'est les métropoles qui ont un avantage évident, c'est qu'elles sont attractives. Hein, donc ce terme d'attractivité aussi, alors partout, tout le monde veut être attractif. Les métropoles seraient en capacité d'attirer les talents, d'attirer les créatifs, d'attirer les personnes les plus innovantes. Et donc c'est ces territoires-là qu'il faut soutenir. Et dans ces territoires, alors on va pas soutenir tout le monde, il faut soutenir les personnes et les organisations excellentes, les plus excellentes. Donc ça aussi, l'excellence, alors nous dans les universités, chaque heure, on nous redit qu'il faut qu'on soit excellent, qu'il faut qu'on monte dans le classement de Shanghai ou d'autres classements, etc. Donc dans le texte, je veux pas être trop trop long là-dessus, mais dans le texte, en fait. Ben on essaie de déconstruire chacune de ces injonctions, quoi. Et puis de dire sur le premier point, et peut-être c'est enfin là aussi, suite à avoir présenté ce texte-là, puis avoir échangé pas mal, je me dis quand même que le problème de base, c'est le premier terme, c'est ce terme de compétitivité et de concurrence territoriale. Et que le reste en découle un peu, quoi. Et ça, c'est une vraie problématique. De considérer que le système économique, c'est un ensemble de territoires en concurrence les uns avec les autres. De considérer que Poitiers, puisque je viens de Poitiers, est en concurrence avec Limoges, La Rochelle ou voilà, des villes de taille à peu près comparable. Que Bordeaux est en concurrence avec Zurich, avec Lyon, avec Milan, etc. Que Paris est en concurrence avec Londres, etc., etc. En fait, même les économistes mainstream, on pourrait dire, depuis Ricardo ou quoi, nous diront, mais non, mais le système économique et la capacité à créer des richesses et de l'emploi, ça résulte pas d'une concurrence exacerbée entre les territoires. Ça résulte de la formation et la formation d'avantages comparatifs et d'une division du travail entre les territoires qui permet à chacun de mieux se spécialiser et de faire système. Et donc de créer de la richesse et de créer les emplois associés à cette création de richesse. Et donc un territoire, plutôt que de le penser comme en concurrence avec le territoire d'à côté, est-ce qu'on n'a pas intérêt à le considérer comme faisant partie d'un système plus large qui le dépasse et à s'interroger sur les complémentarités qui peuvent exister entre les territoires. Hein? Et là, ça change un peu tout, quoi. Là, ça change un peu tout. Et à toutes les échelles de territoire, c'est pour ça que la prise de CAM est un peu calamiteuse, c'est que on en prend à toutes les échelles de territoire, et que c'est pas réservé aux métropoles. Enfin, moi, à Poitiers, les discours des élus sur Poitiers, c'est aussi sous prise de came, quoi. C'est il faut que Poitiers soit compétitif dans la mondialisation, il faut qu'on arrive à rivaliser, il faut qu'on soit plus fort que le territoire d'à côté, il faut que l'université de Poitiers monte dans le classement de Shanghai, etc., etc., etc. Hein? Donc, il me semble que c'est... nous, chercheurs, on entretient ça aussi, d'une certaine manière. On entretient ça bon gré mal gré, notamment du fait, alors heureusement, il y a des choses qui bougent, mais notamment du fait que pour parler de territoire, on s'appuie sur les données qui existent. Hein. Et la plupart des données sont des données par zone, hein. Données par aire urbaine, données par zone d'emploi, par région, département, etc. Et à partir du moment où on produit des stats par territoire, où on va produire par exemple des séries sur les taux de croissance, on va comparer, hein. On va comparer les territoires les uns par rapport aux autres. Et ça y est, en fait. Ça y est, on est dans quelque chose qui peut ressembler à des exercices de benchmarking. On peut regarder est-ce que le taux de croissance de l'emploi sur Bordeaux est supérieur à celui de Lyon ou de Paris, etc. Bon. Et on est, donc voilà, il y a ce biais. Des fois, je me dis, mais faut que j'arrête de produire des cartes par zone d'emploi, quoi. Parce que, en fait, ça y est, c'est mort. Enfin, c'est dur, hein, de résister à... Et donc, il faut aller, alors heureusement, ça commence à se faire et ça se développe, mais on est quand même pauvre en données à ce niveau-là. Il faut aller vers des analyses sur les flux, quoi, ce qui traverse les territoires. Analyse stats sur, voilà, mobilité domicile-travail, sur les relations entreprises, établissements, groupes, etc. Bon, des choses qui commencent à se faire, mais à mon avis, qu'il faut systématiser et puis bien en voir les implications, quoi. C'est-à-dire se dire, faut arrêter de calculer le taux de croissance de Bordeaux par rapport à d'autres, mais il faut regarder dans quel processus socio-économique Bordeaux est inscrit, quoi. Et avec qui donc cette agglomération-là aurait vocation peut-être à travailler, à échanger et à régler des problèmes, hein. Donc on déconstruit ça et on plaide plutôt justement pour cette prise en compte de la complémentarité entre les territoires et faire ce que d'autres disent, hein. Quelqu'un comme Martin Vanier insiste beaucoup là-dessus sur toutes les problématiques d'interterritorialité, quoi. Comment on arrive à bosser, à faire bosser les territoires les uns avec les autres. Et là on est à la préhistoire, hein, enfin à mon avis, hein, surtout je trouve ça la plupart des territoires sur lesquels je bosse là dans l'étude systématiquement on demande aux institutionnels est-ce que vous avez réfléchi à c'est quoi les interdépendances avec les territoires quel autre? Rien. Quasiment rien. Quasiment rien. Sur l'attractivité, alors je vais aller peut-être plus vite pour me garder un peu du temps sur la deuxième partie, mais sur l'attractivité aussi, ce qu'on explique, c'est que, bon là aussi, hein, et ce serait à nuancer très très fort, les gens bougent peu, beaucoup moins qu'on l'imagine. Les personnes ou les entreprises sont beaucoup moins mobiles qu'on l'imagine, et quand ils sont mobiles, c'est pas pour les raisons qu'on pense, quoi. Et que toutes les politiques de marketing territorial pour dire venez chez nous tellement c'est beau chez nous, ça nous semble quand même de l'argent public un peu dépensé inutilement, hein. Métropolisation, bon, ça a été le point de départ aussi de pas mal de nos travaux. C'est ça. Bon, le gros point, c'est de dire si on brasse les stats comme il faut, parce qu'il y a des problématiques aussi, quels indicateurs on utilise, quelles données on utilise, etc. On n'a pas d'avantage systématique, statistiquement significatif de la grande taille ou de la densité en termes de création d'emplois ou de richesse. Donc ça, il faut. On a des grandes villes qui marchent bien, d'autres qui marchent moins bien, des plus petites villes qui marchent bien, d'autres moins bien, etc. On a une diversité de trajectoires non liées à la taille des territoires. Et puis sur l'excellence, arrêtons de penser qu'on peut prédire l'excellence de demain. Toutes les politiques d'excellence, y compris, alors c'est flagrant dans les universités, quand on nous dit on va financer à mort les laboratoires ou les chercheurs considérés comme excellents, comme on ne peut pas prédire l'excellence de demain, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on récompense l'excellence du passé. La visibilité du passé, faudrait d'ailleurs même plutôt dire que l'excellence du passé. La visibilité du passé. Et c'est calamiteux. Et donc nous, on plaide plutôt pour dire, surtout quand on est sur des activités d'innovation, hein, où l'incertitude est radicale. Ce qu'il faut, désolé, hein, c'est plutôt revenir à, non, faut financer pas mal, parce que où ça va émerger, on ne sait pas. Et donc, voilà, donc certains vont dire, oh là 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 là, ça va pas, malheureux, vous plaidez pour du saupoudrage. Ouais, alors nous on dit non, c'est pas du saupoudrage, c'est de l'arrosage. Faut arroser parce qu'on ne sait pas où ça va pousser. Et ça peut pousser à plein d'endroits, hein. Donc arrosons là où les gens ont des projets, ont envie de faire des trucs, et puis ça émergera là où ça doit émerger, quoi. Donc voilà, on file cette métaphore et puis on commence à esquisser quand même des éléments alternatifs. Sortons de la compétitivité, insistons sur la complémentarité, essayons d'inciter aux collaborations entre les territoires, parce qu'il y a plein de sujets sur plein, voilà. Arrêtons avec l'attractivité, on va se sauver en attirant de l'extérieur. À notre avis, c'est plus futé d'accompagner déjà les gens qui sont là et puis de faire des choses pour les habitants qui sont présents sur les territoires. Métropolisation, sortons de cette idée que tout se joue, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. C'est faux, il y a des potentialités de création de richesses et d'emplois à plein d'endroits. Donc soutenons les projets là où ils émergent. Et puis excellence, oublions ce terme quoi, enfin qui a à mon avis pas de sens hein. Et puis disons-nous que s'il faut soutenir l'innovation, ben faut soutenir un peu la diversité des innovations et c'est vrai à plein de niveaux hein. Alors quelle alternative quand on parce que même je pourrais même généraliser encore un peu plus ce discours CAM finalement, ce n'est que le dernier avatar de la tentation en France de l'identification d'un modèle de développement économique. On est toujours à la recherche du modèle. Et dans les années, ce que je dis souvent quand je commence en ce moment des confs sur la métropolisation, c'est de dire, années 90, le modèle, c'était Small is Beautiful. C'était le district industriel italien. Donc, vous voyez, rien à voir avec plus on est grand, plus on est performant. Hein. C'était au contraire. Quand on est petit et en milieu un peu rural avec des PME qui bossent ensemble, etc., des gens qui vont à l'église le dimanche matin, tout ça, ça fait de la sociologie super. Voilà, bon, bref, c'était le modèle années 90. Puis après, ça a été les clusters. Donc, pôle de compétitivité en France. Et puis aujourd'hui, c'est les villes globales, métropolisation, etc. Donc, ça pose cette question forte là. C'est est-ce qu'on peut échapper à cette tentation du modèle ? Est-ce qu'on peut sortir de là ? Ben, ça suppose dans ce cas-là de se dire ben, s'il n'y a pas de modèle, hein, ce que le chercheur, en tout cas moi j'estime que c'est un peu mon job, c'est ce que j'essaie de faire, le chercheur il n'a pas vocation à dire quel est le modèle de développement des territoires, il a éventuellement à dire voilà un peu comment mieux analyser les contextes territoriaux, la diversité des territoires pour mieux éclairer l'action publique et identifier les problématiques à traiter qui sont forcément différentes entre tel endroit et tel endroit. Donc c'est plus un discours de la méthode, on va dire, que l'identification d'un modèle de développement économique. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est un peu réfléchir à ça. Et comme il me reste 3 minutes, pour aller vite sur quelques points, mais après dans la discussion, bien sûr, on pourra développer. Il me semble que... J'ai 10% de plus. D'accord, donc 3 minutes 30. quelques points clés. Premier point, me semble-t-il, c'est peut-être justement rentrer moins par les catégories de territoire que par l'analyse de processus socio-économiques. Je vais essayer d'illustrer un petit peu à chaque fois. Je l'ai dit, il y a des gros biais à rentrer par des zonages, zones d'emploi, aires urbaines, etc., faire des... calculer des moyennes par paquet de zones aussi. Là, il y a un gros problème, par exemple, à comparer les grandes aires urbaines, les moyennes aires et les petites aires et faire des comparaisons de moyennes. Parce que souvent, elles sont pas significatives, en fait. Bon. Il y a des problèmes à la fois. Quelles données on utilise? Quel indicateur? Quel zonage? Pas rentrer par les territoires, plutôt par les processus socio-économiques. J'illustre très vite, par exemple, sur la façon dont on essaie de travailler sur les territoires pour ce qui est des questions de développement économique. On va bien sûr caractériser un peu les territoires, identifier les activités économiques plus présentes à tel endroit qu'à tel autre. Je prends mon petit exemple, plateau de 1000 vaches sur lequel on a travaillé pour la Caisse des dépôts. Activité très présente, l'agriculture, en fait l'élevage de broutards. Ok, on rentre par là. Mais là, après, on va regarder le processus de développement économique. En fait, les chaînes de valeur, quoi. Hein? Bon, ben, qu'est-ce qu'on observe quand on rentre sur le plateau de 1000 vaches? Les éleveurs de broutards, ils les élèvent quelques mois, ils les exportent en Italie, ils sont engraissés pendant une année, ensuite ils sont abattus, découpés, réimportés en France. La valeur ajoutée générée sur le plateau, ultra faible. Et concurrence très forte en coût, parce que mondialisation concurrencée par des éleveurs polonais, irlandais, autrichiens, etc. Donc la demande décline pour les éleveurs de broutards sur le plateau. Donc c'est problématique. Quel avenir pour... c'est la question du repositionnement des agriculteurs du plateau de 1000 vaches. Est-ce qu'on peut faire autrement? Et là, il y a deux projets qui émergent sur le plateau. Un projet, ferme des 1000 veaux. Plutôt que d'aller engraisser en Italie, on va engraisser sur place. Alors, ça a été contesté, etc. Mais il y a une vraie... en tout cas, ça mérite de l'attention et analyse. Deuxième projet, c'est un pôle viande locale, soutenu par la Caisse des dépôts, d'ailleurs, je crois, cofinancé, pour développement circuit court, etc. Mais ce petit exemple pour vous dire... On n'est pas rentré sur le plateau de 1000 vaches en se disant « Oh mon Dieu, c'est un territoire rural, de toute façon, c'est foutu, il n'y a rien à faire ». On est rentré par l'activité économique, une activité économique qui, en fait, est plongée dans la mondialisation, avec un positionnement en coût assez calamiteux des éleveurs et des possibilités de repositionnement pour recréer de la valeur ajoutée sur le territoire. Vous voyez, et il me semble que sur tout un ensemble de territoires, on peut procéder comme ça. On rentre par l'activité économique et par les processus socio-économiques. Deuxième idée, alors qui est un peu en lien, hein, on a intérêt effectivement à chaque fois, parce qu'on n'a pas deux modèles génériques de développement économique, à bien penser les contextes territoriaux et puis vraiment à prendre en compte l'importance des interdépendances entre les territoires. Et donc arriver à articuler des analyses aux différentes échelles de territoire pour identifier les problématiques qui sont toujours contextuelles et spécifiques et brancher les bonnes politiques publiques. Faire du sur-mesure plutôt que du prêt-à-porter, comme on dit souvent pour faire image. Hein. C'est bon, je veux pas trop dépasser, donc je développe pas plus. Troisième idée, peut-être dernière idée. Ce sur quoi on insiste, parce que pour travailler aussi beaucoup sur des territoires très différents, c'est sur le poids de l'histoire, à quel point l'histoire compte pour penser le développement, et l'histoire très très longue souvent. Mais il y a le dernier papier qui est pas encore publié là, qu'on a coécrit avec Michel Grossetti, c'est notamment sur cette question-là et sur la façon de penser les temporalités. Et il nous semble qu'il y a un gros biais, alors peut-être je parle plus pour des gens un peu familiers avec les recherches académiques, notamment nouvelle économie géographique, etc. Il nous semble que la façon dont on conceptualise l'histoire dans la nouvelle économie pose problème. Et il nous semble important de distinguer deux temporalités. On s'appuie sur les travaux d'un historien sociologue américain, Sewell, là, qui distingue en fait trois formes de temporalité, trois façons de penser l'histoire. Il dit il y a la temporalité téléologique. C'est-à-dire on sait déjà la fin de l'histoire. Et pour certains chercheurs, la fin de l'histoire, c'est quoi? C'est l'avènement des métropoles, des villes globales. Et donc, voilà, on produit de la théorie et on sait que la fin de l'histoire, c'est les métropoles. On va vers ça. Donc, soit on y va et c'est bien, soit on n'y va pas et c'est que la métropolisation a été contrariée. C'est ce que disent à demi-mot dans la note Terra Nova d'Aves Ypêche à un moment donné. La métropolisation en France a été contrariée, Aix-Marseille, ça marche pas trop. Mais c'est que ça a été contrarié. Parce que de toute façon, la fin de l'histoire, c'est ça. Et il y a deux autres formes de temporalité qui nous semblent plus astucieuses et intéressantes à articuler. C'est ce que Sewell appelle la temporalité expérimentale, alors avec laquelle il faut faire attention. Mais en gros, c'est très à la mode en économie, ça, parce que la temporalité expérimentale, finalement, c'est ce qui sous-tend toutes les stratégies expérience contrôlée. Il s'agit aussi de trouver des modèles, en fait. Il s'agit de trouver des modèles, mais pas en faisant parler la théorie, en faisant parler les données. On va expérimenter, par exemple, une politique publique sur un territoire, et puis on va pas l'expérimenter sur un autre, donc on a notre territoire test, territoire témoin, et puis on va voir ce que ça donne, et puis si ça marche, on va généraliser. C'est ça, la temporalité expérimentale, une de ses formes, c'est ça. Mais donc ça suppose qu'on peut identifier un modèle générique de développement. Hein? Et puis la troisième temporalité, c'est la temporalité événementielle. Donc là, c'est dire, ben en fait, il y a des choses assez idiosyncratiques, il y a des trucs qui se passent, et il nous semble, nous, alors je vais très vite, je sais pas si je suis très clair dans ce que je raconte, mais il nous semble, nous, qu'on doit distinguer, quand on parle de territoire, pour comprendre les territoires, la temporalité longue, des processus de très long terme, qui, à notre avis, s'expliquent par ces logiques événementielles, et puis les problématiques actuelles, plus contemporaines, où là, on doit plus adopter la stratégie un peu expérimentale. Et que c'est, disons, expliquer pourquoi, mettons, peut-être je vais illustrer, je finirai par ça, expliquer pourquoi on a pas mal d'aéronautique autour de Pau, ça suppose de construire des explications qui relèvent du temps long, en fait, d'analyse qui, en fait, c'est des micro-événements. Voilà. Mais que ça nous apprend pas grand chose sur ce qu'il y a à faire aujourd'hui sur Pau pour favoriser le développement économique. Où là, on doit construire d'autres modèles, d'autres représentations. Et donc, tous les modèles de l'économie géographique, qu'essaie dans un petit modèle d'expliquer à la fois pourquoi c'est là et quels sont les problèmes aujourd'hui à régler, ben, on se plante, en fait. Pour Pau, pourquoi est-ce que l'aéronautique est sur Pau? C'est pour illustrer ce que j'appelle temporalité événementielle. C'est notamment parce que Seconde Guerre mondiale, conflit avec l'Allemagne, l'aéronautique, Turbomeca et Messier étaient en Île-de-France. Il faut éloigner ça de la frontière allemande, donc aller ailleurs. Les deux responsables de l'époque, un était originaire de Pau, il s'est dit « je vais aller à côté de Pau parce que c'est ma région natale ». Et l'autre s'est dit « c'était un amoureux de la montagne ». Et il s'est dit, je vais m'installer vers Pau, là, parce que comme ça, je pourrais aller me balader sur les montagnes. Voilà. Donc, voilà, c'est de la sociologie, en fait, hein. Beaucoup, c'est de la sociologie. Ça explique. Et puis après, il y a des processus cumulatifs, il y a des régularités qu'on peut repérer grâce, justement, à cette temporalité expérimentale. Et puis, il y a aujourd'hui des problèmes à traiter autour de l'aéronautique, comment ça évolue, quelles relations, etc. On entretient avec Toulouse, avec Bordeaux, etc. Donc, il y a des enjeux très, très forts aussi, nous semble-t-il. Et c'est autour de ça qu'on essaie de réfléchir aujourd'hui pour penser de manière un peu pertinente quoi, ces processus qui traversent les territoires et donc après derrière mieux éclairer l'action publique. Hein, voilà, donc je m'arrête là. Merci pour votre attention.